pour vous, voici Page après page avec Gisèle, une rencontre intimiste avec un auteur.
C'était vraiment un employé modèle, Monsieur William. Toujours exact et toujours plein de zèle, Monsieur William. Il arriva jusqu'à la quarantaine sans fredaine, sans le moindre petit drame. Mais un beau soir du mois d'août, il faisait si bon, il faisait si doux, que Monsieur William s'en alla flâner droit devant lui au hasard, et voilà. Monsieur William, vous manquez de tenue, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il rencontra une fille bien jeunette, Monsieur William. Il lui paya un bouquet de violettes, Monsieur William. Il l'entraîna à l'hôtel de la Pègre, mais un nègre a voulu prendre la femme. Monsieur William, hors de lui, lui a donné des coups de parapluie. Oui, mais le nègre, dans le noir, lui a coupé le cou en deux coups de rasoir. Monsieur William, et vous manquez de tenue, mon ami. Eh oui, qu'alliez-vous faire dans la 13e avenue? Il a senti que c'est irrémédiable, Monsieur William. Il entendit déjà crier le diable.
Monsieur William, allons, allons, mon ami, pressons!
Aux alentours, il n'y avait personne qu'un tromboneur, chantant la peine des âmes, un aveugle en gémissant, sans le savoir, a marché dans le sang, puis dans la nuit a disparu. C'était peut-être le destin qui marchait dans les rues, oh là là. Monsieur William, vous manquez de tenue, mon ami. Eh oui, vous êtes mort dans la 13e avenue.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vous retrouve pour Page après page et j'en suis très ravie. Je suis en compagnie de Patrick Cojolle. C'est un auteur lauragais, mescarvillois. Bonjour.
Bonjour.
Vous nous avez choisi une bien belle, mais aussi ancienne musique aujourd'hui.
Oui. En lien avec le polar à suivre. Une chanson de Léo Ferré, écrite par Jean-René Cosimo. Voilà, Monsieur William.
Très bien. Ben, c'était sympa de nous la refaire découvrir. Vous allez nous présenter aujourd'hui Lettre, trois points de suspension et le néant. C'est publié depuis 2021 aux éditions Kern dans la collection Du Noir au Sud, mais tellement d'actualité. Première phrase et hop, le lecteur est accroché. Et ça, je trouve que de votre part, c'est très fort. Vous travaillez l'accroche ou pas?
Non, j'essaye de... Non, pas franchement, c'est assez, si je puis dire, assez naturel. Après, par contre, évidemment, il y a une relecture.
Oui.
Je m'attache beaucoup, parce que j'ai fait quand même pas mal de poésie avant de faire du polar, je m'attache beaucoup à la musicalité.
Et, ah d'accord.
Voilà, moi j'aime bien, beaucoup la musique, j'aime bien, même dans un texte en prose, je pense qu'il faut quand même avoir une certaine... une certaine musique. Alors la musique peut être accélérée, peut être rapide, évidemment. Il y a des scènes qui peuvent être accélérées, il y a des scènes qui sont plus posées, mais je m'attache beaucoup à la rythmique, effectivement. Mm-hmm. Mais l'accroche aussi, bien sûr, elle est importante. Et par certains mots, par certains faits, par les points d'interrogation, d'exclamation, oui, il faut accrocher, oui.
Oui. Ouais. Et là, vous l'avez bien réussi, parce que moi, la première, dès que j'ai lu cette première phrase qui nous met déjà dans le suspense, mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui va arriver, quoi?
Bon ben.
Très vite, on rentre dans l'action avec un premier mort dans une maison. Qui est Frédéric Lagarde, ce premier mort?
C'est un grand flic, très très grand poulet, qui est à la retraite. Qui est assassiné à son domicile.
Mais en plus, comme vous nous le présentez, c'est le monsieur BCBG qui ne demande rien à personne, qui vit sa petite retraite et qui va aller attendre sa femme qui revient.
Exactement. et qui, après quelques mois de retraite, en tant que directeur, donc quand on est directeur d'un SRPJ, on ne fréquente pas, on ne côtoie pas, si vous voulez, physiquement de voyous.
Oui.
Et là, manifestement, il est arrivé quelque chose. Il ne côtoie plus donc ce milieu. Il est sans aspérité.
Oui.
C'est quelqu'un de lisse. Alors, il fréquente des anciens, de la boutique, mais il a ses activités de bon retraité, tranquille.
Oui, c'est vrai.
Sans aucune... sans aucun côté négatif.
Mm-hmm.
Et pourtant...
Et oui, en effet. Gérard Bastide est chargé de l'enquête. Mmh. Qui est-il, lui?
Lui, c'est un capitaine de police toulousain, originaire de l'Ariège, parce que vous avez dit que j'habite aujourd'hui en Lauragais, mais je suis originaire de Domazan-sur-Arize, donc pas très loin d'ici. Et c'est un bon fonctionnaire de police, capitaine, et qui se retrouve confronté avec cet assassinat, puisque c'est manifestement une préméditation, donc c'est un assassinat de cet immense fonctionnaire de police, cet immense directeur. Et l'enquête commence comme ça, avec l'environnement familial, les caméras de surveillance locales, de la rue, les écoutes téléphoniques, tout ce qui sert en fait de socle à l'enquête. Parce que bon, il n'y a pas de... Vous savez, dans une enquête, aucun fonctionnaire de police n'a de boule de cristal. Hein.
Oui.
Donc, ils font les faits, rien que des faits.
Oui.
L'intuition...
Et les preuves des faits,
voilà. L'intuition, c'est éventuellement pour les romans, c'est pour les héros, c'est pour les télés. Non, des faits, il faut être dans le factuel. Et le factuel, on l'a par tous ces petits détails qu'on accumule, les témoignages, l'entourage, etc.
Surtout que là, il y a une grande... preuve que c'est vraiment un meurtre, puisqu'il y a écrit trahison avec le sang de la victime.
Avec le sang de la victime. Donc il y a, pour lui, dans la mesure, c'est pas une fausse piste aussi, il faut toujours se méfier de tout, il y a quand même un côté vengeance déjà qui ressort.
Oui.
Mais trahison, ça peut venir, effectivement, ça peut venir de tout. D'un ancien collègue, d'un problème familial, d'une femme. D'une femme avec laquelle il aurait pu avoir une liaison, d'un ancien voyou potentiel. C'est satellitaire, ça parle dans tous les sens.
Oui, c'est vrai.
Et après...
Oui. Et Gérard, évidemment, il va perdre son latin, si on peut dire. Il a une équipe, ce Gérard Bastide, sa proche équipe d'ailleurs, avec Capucine Lafargue. C'est elle qui récupère les preuves, les indices... Et ce mot écrit donc avec le sang de la victime, c'est atroce, une scène comme ça, dans le vrai, à voir ou pas? Et pour elle, comment vivent les policiers qui découvrent une scène?
On pourrait dire qu'on s'y habitue, mais c'est faux. Je crois qu'on a beau côtoyer la mort, on a beau côtoyer le malheur, on ne s'y habitue jamais. La seule chose qu'il faut essayer de faire, c'est de ne pas l'absorber. Il faut savoir bien séparer le fonctionnaire que l'on est de l'homme. Parce que sinon, si on amène tout le soir à la maison, on n'en sort pas. Bon, viscéralement, on ne peut pas séparer totalement l'un de l'autre, mais il faut quand même essayer. Alors, mais on s'habitue jamais. On s'habitue jamais à ce genre de vue.
Mm-hmm. Non, c'est sûr. C'est très difficile pour Gérard Bastide d'enquêter, parce qu'il lui vient quand même une toute petite idée. Si c'était un des leurs.
C'est une possibilité, effectivement. Parce que le fonctionnaire, le grand directeur, est assassiné à son domicile, à l'étage. S'il a laissé rentrer la personne, on peut supposer qu'il la connaissait.
Et oui.
On pourrait occulter le côté voyou, mais ça peut être effectivement une fille, une femme qui est venue, oui, justement en l'absence de son épouse, puisque et son, oui, épouse n'est pas là,
oui,
ça peut être une possibilité. Et donc là, il y a un travail, le travail aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, de l'identité judiciaire,
mm-hmm,
donc de la police technique et scientifique, qui avec ce qu'on appelle dans notre jargon les paluches, c'est-à-dire les empreintes,
oui,
les empreintes, ou aujourd'hui, bien sûr, l'ADN, le Blue Star aussi, c'est-à-dire ce que le fait de passer un appareil qui est un révélateur de traces sanguines, quand bien même, si vous voulez, l'assassin aurait lavé le sang sur du carrelage ou quoi que ce soit, ça transparaît de toute manière toujours par le biais de ce révélateur.
Mmh.
Voilà. Tout ça, c'est le travail de Capucine Lafargue, de l'identité judiciaire,
ouais,
qui est le service probant par excellence, celui qui va amener le raisonnement ensuite de l'enquêteur.
D'accord. Et cette question de savoir si ça pourrait être un des siens, ça le taraude. Est-ce qu'à un moment donné, avant le deuxième mort, puisqu'on va avoir un deuxième mort, est-ce que vraiment il arrive à s'en convaincre de cette idée qui a germé dans sa tête ? Parce qu'il n'y a rien qui prouve,
non,
quoi que ce soit ?
Non, sans convaincre, non. Parce que pour être convaincu, je le répète, il faut des éléments qu'il n'a pas.
Oui.
Mais c'est en filigrane derrière. C'est une possibilité. Il laisse rentrer quelqu'un, donc pourquoi pas un collègue ? Pourquoi pas un ancien collègue ?
Mm-hmm.
Vous savez, le milieu de la police, c'est comme tous les milieux. Il y a parfois des petites jalousies, il y a parfois des petits soucis. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un ancien collègue de Paris, de Toulouse d'ailleurs ? Une petite altercation ?
Oui.
Et puis ça finit mal. Donc, il était directeur. Donc, il avait des responsabilités. Il avait dû faire quelques avancements, en proposer quelques-uns, en refuser d'autres.
Et oui.
Pourquoi pas ? On ne peut pas occulter ce genre de choses.
Oui, d'accord. Page 48, c'est là qu'on retrouve notre deuxième mort. C'est Jan Kergelek,
mm-hmm,
qui est juge, lui, et il est à son tour assassiné. Qui est-il ? Il est juge, on le sait, mais enfin, il a peut-être d'autres choses que Gérard Bastide connaît à son propos. Est-ce qu'il y a un début de réponse là pour Gérard ou pas ?
Non. Non, précisément pas, parce qu'il n'y a aucun lien entre les deux hommes. Il n'y a aucun lien personnel,
oui,
il n'y a aucun lien au niveau professionnel, puisque quand le juge assassiné a pris ses fonctions, l'ancien directeur Lagarde, Frédéric Lagarde, avait déjà cessé ses activités. Donc il n'y a aucun lien, aucun niveau. Et alors là, ça part dans une autre dimension, c'est-à-dire que c'est quand même un grand fonctionnaire d'État, c'est quand même un magistrat. Là, on sort, si vous voulez, du cadre,
oui,
personnel, et on rentre dans un cadre qui est quand même un peu plus lié au terrorisme ou à quelque chose qui est une attaque envers des fonctionnaires d'État,
oui,
envers des représentants de l'État. Pour lui, c'est une possibilité. Il n'y a aucun lien direct entre les deux.
Mm-hmm.
Pourquoi ? Toujours,
oui,
pareil. Pourquoi ?
Et oui. L'hypothèse d'un des leurs.
Et toujours.
Et c'est toujours vraiment de plus en plus.
Et oui,
finalement.
Et oui, puisqu'il y a quand même un magistrat, un ancien directeur, il y a quand même un lien, une osmose entre le milieu policier et le milieu de la justice,
mm-hmm,
le milieu pénal.
D'accord. Et puis il y a ce mystérieux bibliothécaire, mm-hmm, qui vient là comme un cheveu sur la soupe. Est-ce que c'est pas lui plutôt l'auteur ? Et pourtant.
Et pourtant, on, c'est quelqu'un qui cherche, qui peut percevoir, comprendre, et qui a peut-être en sa possession des éléments que les fonctionnaires de police n'ont pas.
Eh oui.
Lui, peut-être habitué à lire des polars, peut-être habitué à avoir ce mécanisme de recherche, et peut-être aussi une petite... un petit pincement au cœur de ne pas lui-même être fonctionnaire de police.
Oui, j'y ai pensé.
Parce qu'il y a ça aussi en filigrane. Bon, il est bibliothécaire, certes, c'est un métier passionnant pour ceux qui aiment écrire, lire. Mais, vous savez, on a tous envie parfois d'avoir une double vie, participer à une enquête, se retrouver en fait à l'intérieur du livre et se retrouver avec des fonctionnaires, dans un autre milieu que,
oui,
le sien. Il y a ça qui le touche un petit peu, ce bibliothécaire, oui. Et qu'il va tourner effectivement autour de cette affaire.
Mm-hmm. Et oui, parce que c'est vrai que ce mystérieux personnage, moi, m'a posé des questions. Parce,
oui,
que je me dis, mais qu'est-ce qu'il vient faire, ouais, là et pourquoi il va directement à la police, presque il va se livrer, quoi. Et je pensais que c'était lui, et puis bon, on va rebondir sur autre chose.
Exactement.
Et dans ce livre, Gérard, au travers de ses planques, de ses marches dans la nuit, parle du patrimoine toulousain. Mm-hmm. Est-ce que ça, c'est important pour vous, justement, de parler ainsi du sud de la France et du sud toulousain?
Oui, oui, non, mais absolument. Moi, j'adore la culture occitane. Alors, il y a aussi, il faut bien le dire, les gens qui sont à Toulouse ou ici aiment bien quand même. Combien de fois les gens me le disent, on aime bien se retrouver dans une ville, parler de la ville, parler le nom des rues, quelques monuments, se resituer. Mm-hmm. Après, il faut, même les gens qui vont lire ce livre, qu'ils soient de Paris ou de Bordeaux, d'ailleurs, qu'importe, il faut bien qu'un livre se situe quelque part. Mais pour moi, oui, moi qui suis très attaché à mes cultures ariégeoises ou toulousaines, c'est important de faire percevoir ce climat ou le vent d'OTAN, le vent des fous, il a suffisamment sévi il y a quelque temps. De restituer tout ça, et pour moi, très 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 important.
Gérard est dans une impasse, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien de rien. Comment est-il dans sa tête à ce moment-là de l'enquête? Est-ce qu'on peut vraiment lui retirer justement cette enquête?
Oui, bien sûr, parce que ça n'avance pas. C'est quand même, ce sont deux fonctionnaires d'État, représentants de l'État, donc c'est très important. Vous imaginez bien la pression qu'il peut y avoir au plus haut niveau si ça n'avance pas. C'est rare qu'un service comme la police judiciaire soit dessaisi, mais ça nous est arrivé. On a eu l'affaire Marion à Agen, où on n'a pas eu de résultat, et on a été dessaisi au profit des gendarmes, qui n'en ont pas eu davantage.
Oui.
Mais c'est vrai que les magistrats peuvent tout à fait dessaisir un service ou mettre une co-saisine, ce qu'on appelle une co-saisine, c'est-à-dire mettre deux services.
Ah oui, d'accord.
Voilà, par exemple, s'il y a par exemple un assassinat, si vous voulez, à Toulouse, donc en zone police, et manifestement le même auteur qui est en zone gendarmerie, il peut y avoir une co-saisine avec les gendarmes.
D'accord.
Ça peut arriver.
D'accord. Et là, comment il est, Gérard, dans sa tête? Parce que là, le pauvre, je le plains, quoi, parce qu'il a beau ramer, il ne voit jamais le bout.
Il ne voit pas le bout. Les éléments de la police technique et scientifique ne sont pas probants. Il n'y a rien. Ça part un petit peu dans tous les sens. La pression en haut. Il a beau réfléchir. Et comme on dit, il manque des billes. Quoi.
Oui.
Il manque des billes, il ne comprend pas. Puis petit à petit, certains éléments vont arriver.
Oui.
Un petit peu par hasard aussi. Et ça va se décanter petit à petit.
Mm-hmm. Est-ce que c'est pour le lecteur? Est-ce que c'est pour votre plaisir personnel d'écrire que vous avez choisi ou monté une enquête aussi compliquée?
Ah, c'est pour le plaisir du lecteur aussi, voilà, de ne pas le tromper. En fait, le but, c'est quelque part de tromper. On est un auteur est un menteur, quoi. En fait, on essaye de vous mentir au maximum. C'est-à-dire de vous guider vers des lieux ou des personnages qui sont pas forcément les bons, quoi.
Voilà. Ah, mais là, vous l'avez bien réussi. Parce qu'à chaque fois, je croyais avoir trouvé.
C'est ça. On sème des petits cailloux blancs en se disant, tiens, le lecteur ou la lectrice va les mettre dans sa poche, va les ramasser. Ah, ben oui, mais c'est pas le bon. C'est...
Page 100, il y a l'oncle de Gilbert Endadia qui fait une description de la paix et sur l'art de cultiver la différence. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire et je voudrais savoir si c'est de vous ou si c'est vos réflexions qui vous ont amené à écrire ça.
Oui, non, mais c'est de moi, ce sont mes réflexions tout à fait personnelles.
Franchement, bravo, c'est magnifique.
Ah bon, ben écoutez, merci. Voilà.
Ah, magnifique.
Oui, si je me souviens, j'ai plus les livres en tête, mais je sais qu'à la fin, il termine. Il n'est pas mort de trouille, il est mort de rouille.
Oui.
Voilà, c'est ça, parce que c'est un gars qui a été mis en garde à vue, qui est pas un demi-clochard, mais c'est un petit jeune, mais qui est lymphatique, qui contrairement à son père ou à son grand-père n'en veut pas, quoi.
Oui.
Il se laisse aller. Et on sent que pour un jeune, vis-à-vis de Bastide, il trouve que c'est vraiment dommage qu'à cet âge-là, on se laisse aller, on n'est pas d'envie, quoi.
Oui,
c'est quelqu'un sans envie.
Mm-hmm. Mais alors, cette description de la paix et de la différence, c'est juste magique. C'est,
ah bon, écoutez,
c'est écrit quand il fallait et où il fallait. Parce que c'est une pause dans l'enquête, mais c'est aussi pour Gérard, peut-être un souffle qui revient, oui. Une respiration, c'est vraiment bien pensé, bravo.
Bah écoutez, merci. Si j'ai besoin d'un avocat un jour, je saurai qui prendre.
Vous pourriez peut-être être déçu. Et page 102, on y arrive, c'est le troisième mort, Aldo Mazan. C'est encore un ancien de la maison. Et là, oui, j'ai pensé comme Gérard, c'est bel et bien un collègue. Est-ce que maintenant, il en est persuadé ?
Oui, mais si je puis me permettre, oui. Puisqu'on a parlé tout à l'heure de l'Ariège, oui. Aldo Mazan, c'est un clin d'œil que j'ai fait à ma commune d'origine qui est Domazan.
Mais bien sûr, je ne l'ai pas vu.
Aldo Mazan.
Là, bravo, bravo, voilà. Bravo, je ne l'ai pas vu.
Non, mais ce n'est qu'un infime détail.
Non, mais c'est bien vu, vous voyez. Voilà. Parce qu'il y a des fois, je me pose aussi cette question, comment vous, auteur, Georges Patrick Glaise, que vous devez connaître, m'a bien expliqué, lui, comment il procédait. Mais comment un auteur va choisir les noms de ses personnages ? C'est quand même fabuleux, quoi.
C'est des noms qu'on peut... Moi, c'est parfois des noms d'amis que oui. j'ai... Alors, évidemment, en changeant le prénom, mais c'est des noms d'amis auxquels je veux rendre hommage. Ça peut être nom aussi de ville ou de lieu-dit.
Oui, on va y venir tout à l'heure. J'en ai relevé un, par contre.
Bon, très bien. Donc voilà, c'est un clin
d'œil. Peut-être même Capucine a été un clin d'œil.
Alors Capucine, pour tout vous dire, c'était une copine de classe, hein, l'un de mes enfants, de mes fils. Oui. Il me parlait tout le temps de Capucine, donc ça a été le premier prénom qui m'est venu et tout simplement.
Oui. Oui. Est-ce que Gérard est persuadé que c'est vraiment un collègue là, parce que c'est le troisième mort et troisième de la police.
Et c'est un troisième fonctionnaire de police. Donc là, ça fait quand même beaucoup. Le lien, il ne peut pas y avoir de hasard. Donc c'est il y a un lien avec la police, il y a un lien avec la justice, et alors là, ça prend des proportions qui sont bien plus importantes. Et pourtant, entre ces trois personnes au niveau professionnel, il n'y a rien. L'un était gardien de la paix, l'autre directeur de SRPJ, impossible pour eux de se côtoyer, un magistrat qui n'a aucun rapport avec le gardien de la paix ni avec l'ancien patron. En fait, il y a une araignée quelque part, mais ils cherchent la toile, il cherche où est le fil conducteur, où est le lien. Et le lien, au niveau professionnel, il gratte.
Toujours et
il trouve pas. Le téléphone, l'identité judiciaire va permettre, aussi par le hasard, d'avancer un petit peu, d'avancer même beaucoup.
Donc on en est toujours dans notre livre, on ne connaît pas la fin. C'est quand même le seul fil que Gérard puisse tirer. C'est celui de ces fameux livres que donc avait parlé le bibliothécaire. Et c'est là que le coupable laisse entrevoir un fil à Gérard. Et il y a aussi le chamanisme qui est là, avec les trois clous sur le troisième corps. C'est avec ça que vous obligez le lecteur à enquêter à la place de Gérard un peu ?
Oui. Ben oui, parce qu'on ne peut pas exclure un côté de folie, on ne peut pas... Non, c'est important, oui, pour le lecteur, pour moi en tant qu'auteur, de faire voir à quel point, pour l'enquêteur, toutes les directions sont possibles, sont envisageables. Ça peut être fou, ça peut être des satanistes, ça peut être aussi, parce qu'il y en a beaucoup plus qu'on ne pense, ça peut être des satanistes aussi. Et ça fait une possibilité, l'éventail, au lieu de se rétrécir, il s'élargit. Et ça, pour une enquête, c'est pas bon du tout. Mais heureusement, l'identité judiciaire va quand même apporter un élément prépondérant.
Gérard aime la nuit, il aime les bruits, il aime les ombres. Vous narrez ces moments qu'aime Gérard avec une justesse, avec... une passion, et quand Gérard arrive au bout de la nuit de ses planques, le jour arrête brusquement ses moments et la vie reprend. Est-ce que c'est votre métier aussi qui vous a appris à vivre ces moments ? Parce que là, je pense que c'est plus Patrick que Gérard.
Oui, non, mais c'est certain. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce que j'essaye dans un roman policier, par-delà l'intrigue, par-delà des personnages qui peuvent être un peu âpres, un peu cassants, un peu cassés aussi, mais j'essaye quand même d'enrober le tout avec ce que j'ai profondément aimé, c'est-à-dire un soupçon de poésie et des états d'âme. Pour faire bien ressortir au lecteur qu'on peut être un bon poulet, etc., un fonctionnaire, on ne peut pas donc tout laisser à la maison et on a quand même la personnalité, ses états d'âme, ses fragilités,
oui.
ses goûts. Et tout ça, ça transpire, quoi. Je veux dire, on n'apprend pas... un fonctionnaire de police, c'est pas un code pénal ambulant, quoi. Mm-hmm. Dire, c'est pas l'article machin-chose qui va... Non, y a la sensibilité qui ressort. Alors, parfois, elle ressort davantage que d'autres, c'est certain. Et parfois, quand on est seul, parfois, quand on marche, on peut se remettre en cause. Mais il y a des moments qui sont aussi forts. Et il y en a certains que j'essaye de retranscrire aussi dans ce type de recueil d'ouvrages.
D'accord. Et puis, bien sûr, vous nous parlez de ce mal-être qu'a Gérard, parce qu'il veille au bien-être de son équipe, et des fois, ça le... Oui,
oui, ça le mine un petit peu.
Il veut absolument qu'il ait une bonne équipe, qu'il y ait une bonne entente, qu'il y ait un bon travail qui se fasse en équipe. Est-ce que là, c'est l'humain que vous avez mis avant tout le reste? Est-ce que c'est crucial pour une équipe comme la sienne?
Oui, mais dans tout groupe, il faut, voilà, c'est comme une équipe de foot ou de rugby. Vous avez beau mettre 10 internationaux ou 15 internationaux, s'ils ne s'entendent pas, s'il y a des jalousies, non. Là, donc il faut qu'un groupe, en plus un groupe à 4, oui. 3 à 4, non, il faut qu'il y ait une osmose. Donc il faut que chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun compense éventuellement
oui.
les petites carences ou les petites faiblesses de l'autre. Et c'est pour ça que de temps en temps, ben, un repas, une petite fête, un petit verre pris ensemble, ça permet de décompresser, ça permet de se cerner davantage.
Oui.
Et c'est ça qui soude, oui, effectivement.
Oui.
Les bons moments soudent mm-hmm. au même titre que malheureusement les mauvais, parce qu'il y en a aussi. Mais il faut que tout doit être fait pour que le groupe soit une entité.
D'accord. Voilà. Les attentes de l'enquête sont pénibles pour Gérard. Le fait de vouloir mener cette équipe à une osmose pour que tout soit parfait, est-ce que c'est vraiment dur pour Gérard ou pour l'auteur ?
Alors c'est dur pour tous les deux, parce que bon, quand on écrit, on est le personnage.
Oui.
Donc on est, même si on peut parfois connaître la fin, on souffre à la place de notre fils, entre guillemets. Et non, c'est difficile pour lui, parce que il sent que l'échec est pas loin, l'échec se rapproche. La hiérarchie qu'il tarabuste, les collègues à côté qui n'en pensent pas moins, les épouses des victimes qui, elles aussi, cherchent à comprendre,
et oui.
cherchent à savoir, essayent d'aider. Il essaye de comprendre par elle, mais non, il est vide, quoi. Il est, mm-hmm. il est sec, comme on dit.
Voilà. Oui. Entre Planck, Filoche, Serrage, question des suspects interpellés, vous comparez tout ça à une recette. Et c'est vrai qu'un gâteau, c'est vrai, c'est tout simple, quoi. Et ça, c'est une belle image. Vous l'avez recherché, ça, ou ça vous est venu comme ça?
Non, ça m'est venu comme ça, oui, oui, mais c'est ça, c'est une...
Mais c'est ça?
Oui, oui, mais c'est que ce soit un groupe ou une enquête ou la résolution d'une affaire, c'est un amalgame, c'est tout un amalgame. Alors il y a parfois c'est un peu trop fort, parfois c'est un peu fade. C'est comme ça
oui.
qu'au bout du compte, ben, on arrive à résoudre et à avoir le plat qui est fini.
Oui,
quoi.
C'est vrai. Patrick, je vous propose de faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous nous avez choisi ?
En premier lieu, j'ai choisi donc Léo Ferré, Monsieur William, puis après j'ai Pigalle la Blanche de Bernard Lavilliers.
Eh bien, on l'écoute.
Allez.
La loi, la ville est condée. White, les nuits pour oublier. Phare de la police, dans mes yeux métis mouillés.
Black,
mes cheveux et ma peau.
Black,
c'est écrit là sur mon dos.
Black,
comme de la musique soul. Black's black and really beautiful. And tell me
why
I don't know.
deux noirs pour une blanche, c'est inscrit dans le tempo. White, la couleur de l'accro. White, la lame, noir le couteau. White, la voix qui dit encore. Sur Pigalle la blanche fait rouler ses gouttes d'or. La mémoire des bistrots.
Black.
Les blousons des travelots.
Black.
La mort dans son linceul. Comme un coup de flingue, une baffe dans la gueule.
And tell me why
I don't know.
La morale et le nombre. Pigalle devient blanche quand les bronzés sont à l'ombre. Vers la lumière dorée. Vers l'épaisseur des forêts. Je veux repartir vers les tambours qui bastent.
Écoutez page après page, et je suis en compagnie de Patrick Cojol qui nous propose ce mois-ci L'être et le néant, publié en 2021 aux éditions Kern dans la collection Du Noir au Sud. Le fait d'écrire les armes, le caractère supposé du tueur, est-ce que c'est un plus pour Gérard qui n'a toujours rien à se mettre sous la dent?
Oui, c'est un plus. Tout élément nouveau permet, même s'il n'y a pas forcément d'empreinte ou autre, ou de fait, ça, quand même, ça cerne une personnalité. Le couteau, c'est quand même pas trop une arme de professionnel, ça fait un peu grouillot, ça fait un peu banlieue, c'est pas quelqu'un qui est un tueur professionnel, il va plutôt prendre un calibre, un 9 mm, ou chaque élément, oui, est quelque chose d'important. Et après, effectivement, il y a ce côté avec les lettres, puisque le livre s'appelle L'être et le néant, je ne peux pas tout dire, mais il y a un phénomène de lettres, de manuscrits, tout ça rentre en ligne de compte, et c'est pas comme si l'auteur, le coupable, guidait l'enquêteur, on n'en est pas là, mais il sème quand même quelques petits cailloux, il sème quelques éléments qui mettent en éveil mon auteur, mon fonctionnaire et son équipe, Gérard.
Oui. Vivre avec la peur, c'est le lot de tout policier. Et Gérard aussi a peur parce que lui-même est menacé personnellement.
Oui, voilà, il reçoit. Alors, c'est pas une balle, mais c'est un signe aussi qui prouve que pourrait être le prochain et que dans cette mouvance de fonctionnaire de police tué, de magistrat tué, il y a quelqu'un qui le connaît. Donc c'est possible, c'est toujours envisageable que ce soit toujours dans ce lien que lui-même connaît, dans lequel lui-même baigne. Donc ce milieu, cette entité policière, pénale, judiciaire, ça grenouille là-dedans, ça peut grenouiller là-dedans, ça peut. Pas sûr.
Et de là, ça le conforte dans son idée.
Oui, ça l'incite à penser que. Oui, effectivement, ça le conforte. Tout va dans le même sens, si vous voulez. L'entonnoir se rétrécit et va dans le même sens. Mais.
J'ai constaté que malgré la peur, Gérard a beaucoup d'humour. Est-ce que c'est facile pour l'auteur de créer des personnages comme ça, à sa guise ou pas? Et est-ce que ça vous fait rire quelque part de créer ces personnages?
Oui, moi j'ai connu beaucoup de fonctionnaires qui avaient de l'humour. Alors, parfois, il y a des lecteurs qui aiment quand il y a de l'humour, d'autres qui aiment moins, parce que certains veulent rester dans l'émotion. Mais moi qui essaye quand même de retranscrire au plus juste ce que j'ai vécu, vous savez, c'est ce qu'on dit, hein, l'humour, c'est la politesse du désespoir.
Oui.
Et le désespoir dans la police, ben, on le côtoie. En fait, tout est lié. Et c'est un contre-poison, en fait, l'humour.
Oui. L'humour, moi, j'aime bien.
Voilà. Moi, ça perd de temps en temps. Il n'en faut pas trop.
Ah non.
Il n'en faut pas trop. Mais un petit peu, oui, ça permet de casser un petit peu le rythme. Enfin, moi j'aime bien. Et puis, je dis, ça colle au personnage que j'ai.
Ça colle au personnage, mais ça colle aussi à l'histoire.
Oui.
Ça compense, ça. Parce qu'il est vrai que même les gens les plus lambda, ben, ils ont des moments où justement l'esprit divague et ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font ou ce qu'ils sont en train de faire.
Bien sûr, et puis on dédramatise. Ça permet aussi de libérer un petit peu le cerveau et de le faire aller sur une route sur laquelle peut-être il n'a pas toujours envie d'aller, et donc de changer et de le libérer un petit peu. Et peut-être que cette libération lui permettra d'être plus ensuite meilleur pour l'enquête aussi.
Oui. Vous auriez pu situer votre enquête dans une autre ville que Toulouse, un autre pays. Le terroir toulousain et son sud, vous l'avez dit tout à l'heure,
oui, n'importe.
Vous aimez. Mais par contre, j'ai compris un clin d'œil, et on y vient. C'est le clin d'œil à Siadou. Ça montre que vous aimez notre sud et que vous aimez aussi Siadou.
Oui, ben je connais Siadou parce qu'il y a un petit salon du livre qui est organisé par un ami et qui est un très bon salon du livre. Je dis, je n'invente pas. En général, je mets des clins d'œil aux gens ou aux lieux que j'aime.
Oui. Voilà. Oui. Et l'inattendu, la piste qui va conduire Gérard au Canada. Alors, voilà. Ça tombe, on ne sait pas comment, trop. Il le fallait certainement pour l'enquête. Et on comprend que le ressortissant est recherché et très dangereux. Est-ce que c'est difficile de s'accorder comme ça entre pays et entre policiers de chaque pays?
Oui, il y a des pays où il n'y a pas de... Il y a pas d'osmose, il y a pas, si vous voulez, il y a pas d'entente. Après, il y a des pays où comme l'Espagne ou l'Allemagne où on a ce qu'on appelle des officiers de liaison qui permettent, par exemple, en Espagne, vous avez un Français, en Catalogne, il y en a un autre, et ça permet de faire le lien, hein, comme le nom l'indique, entre les deux pays. S'il y a une enquête qui a des résurgences d'un côté ou de l'autre, ben à ce moment-là, les enquêteurs espagnols peuvent venir en France et inversement.
Oui. Et là, vous faites partir Gérard au Canada.
Voilà, il part au Québec.
Au Québec,
voilà. il part au Québec, long voyage. Alors, je suis moi-même allé au Québec et c'est un pays
magnifique. C'est ce que j'ai pensé.
Voilà, donc c'est un pays magnifique. Et j'y suis allé, j'ai voulu rendre hommage aussi. Et il part à la poursuite d'un individu qui semble être le bon.
Et en effet, c'est tout concorde.
Tout concorde, voilà. Tout concorde.
Merci pour ce dépaysement, ça fait du bien. C'est aussi une bulle d'air dans ce roman, encore une fois. Ça fait du bien de voir qu'il y a un autre... que les chemins peuvent aller bien plus loin. On était parti d'un tout petit truc à Toulouse, et puis voilà, on se retrouve dans le monde. Ce ressortissant étant très dangereux, comment vous, auteur, vous avez dû quand même un petit peu sourire quand vous avez fait partir Gérard si loin, alors qu'il avait le vrai tueur sous le nez.
Oui, mais c'est, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, donc il est obligé d'enquêter, de partir. Tout concorde vers cet individu.
C'est vrai.
L'enquête est tellement importante parce que bon, il y a quand même des frais de justice qui sont pas anodins. Faire partir un fonctionnaire au Québec, c'est pas neutre. Mais l'enquête est tellement importante avec un magistrat, de fonctionnaire de police, qu'il faut absolument trouver la solution.
Oui.
Donc la personne est manifestement la bonne. Je ne dis pas pourquoi, mais c'est manifestement la bonne. Il faut y aller, quoi. Il y va et il le trouve. Il trouve, mais voilà.
Mais hélas, page 254, et là je vous cite, « Ce n'est pas moi qui les ai commis », en parlant des meurtres. Et là, Gérard croit ou doute ?
Il doute, parce que, parole de voyou, même s'il va lui arriver des petites bricoles à ce malfaiteur, on ne peut jamais faire confiance totalement à un voyou, on ne peut jamais non plus se faire confiance à soi. Le doute est permanent. Mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui est amené par l'identité judiciaire, par la police technique et scientifique. Et ça, il est impossible que ce ne soit pas vrai.
Oui.
Je ne peux pas le dire, mais c'est impossible que ce ne soit pas vrai. Et donc, ça, c'est un élément irréfragable. Et pourtant,
moi, je suis tombée dans le panneau. Et pourtant, j'en lis des livres.
Oui.
Et c'est vrai que même moi, je dis, ben voilà, il a préféré mourir plutôt que d'avouer.
Ça peut arriver. Mais...
Et mais...
mais voilà.
Donc, le tueur n'est pas celui qu'on croit. Et vous entraînez maintenant le lecteur sur une autre piste. Et ça, c'est aussi la facilité de l'auteur de tirer les ficelles comme vous voulez.
Oui, c'est ça. Il faut partir d'un côté, de l'autre, et par-delà tout ce qui pouvait sembler évident et qui ne l'est pas, mais il faut rebondir. De toute manière, il faut forcément rebondir. Il y a forcément quelqu'un. Et puis, rebondir pour l'enquête, mais rebondir aussi pour qu'il n'y ait pas un quatrième ou une autre, pour ne pas laisser un fou furieux, comme on dit, dans la nature. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir encore un autre magistrat, un avocat, encore un autre homicide deux, trois jours plus tard. Donc il faut absolument aller vite et résoudre.
Oui. Et puis il y a aussi ce rapport avec ces livres-là du bibliothécaire, j'y reviens encore, parce que c'est vrai que moi ça m'a fait poser beaucoup de questions, ce rapport à ces livres. Et là, vous embrouillez Gérard ou vous embrouillez le lecteur ? Ou les deux peut-être ?
Les deux. C'est-à-dire que j'embrouille en donnant des éléments. C'est-à-dire qu'il y a des,
oui.
y a des traces, il y a des traces qui apparaissent dans des livres. Manifestement, le lecteur lit, le lecteur aime les romans policiers, s'inspire de Polar, mais alors le bibliothécaire, oui, bien sûr, il en lit, mais c'est pas son intérêt, c'est lui-même qui va au contact. Donc c'est pas possible. C'est quelqu'un qui lit des Polars.
Et... Parce que moi, je me suis dit, mais est-ce qu'il faut que j'aille lire ces Polars ?
pas forcément, mais il y a un lien effectivement avec des romans policiers.
Oui. Vous vous amusez à guider comme ça et à amener vos lecteurs
Oui, mais c'est. Comment vous dire, c'est un peu comme une baguette de sourcier, hein. Vous guidez, vous la mettez droite, et puis tantôt ben, elle baisse, tantôt elle monte, vous ne savez pas toujours où vous allez, et vous savez, le lecteur non plus, hein. Vous savez, il n'y a pas...
Pour le coup.
Puis à la limite, il n'y a pas de livre, il n'y a que des lectures, parce que chacun va trouver dans un livre,
Tout
dans le
fait.
Mien ou dans d'autres, ce qu'il va vouloir y trouver aussi,
oui.
et va le faire en fonction de sa personnalité, de ses états d'âme, et va percevoir dans un livre quelque chose de différent d'un autre, et va être touché par une chose qui va sembler peut-être beaucoup plus anodin ou à quelqu'un d'autre. On tente des coups, mais on ne sait jamais complètement sur qui ça va marcher.
Oui. Nous sommes à Toulouse, puisque Gérard revient sur Toulouse, Toulouse-Ville-Rose, qui pour Gérard vire au rouge, au noir,
oui.
Comme la colère. Est-ce que vous avez fait d'abord un tissage avant de vous lancer dans cette écriture ? Parce que, pour ne pas se perdre, même en écrivant, ça devait être un peu dur, non ?
Non, je n'ai pas fait de... J'ai pas fait de plan. Un squelette, oui, mais... Vous savez, il y avait Hemingway qui disait ceci. Hemingway disait, si vous faites un plan, vous savez où vous allez, mais le lecteur aussi. Là, le but, en me trompant, je vous trompe. Et je suis ravi de tromper les lecteurs.
Ah,
et
mais
de
tromper...
Donc, voilà, le but est là, d'égarer, de mettre des fausses pistes. Et parfois, je ne sais pas, moi non plus, je ne sais pas toujours où je vais.
Oui. C'est vrai que c'est... C'est un peu tordu, votre idée, je l'avoue. Patrick, j'ai vraiment aimé cet ouvrage. Moi qui ne pensais pas aimer les livres comme le vôtre, ces polars, finalement, je découvre que j'ai aussi une passion pour les polars. Et merci de me conforter dans cette idée. On n'a eu aucun indice depuis le début. Malgré le tissage que vous faites, donc vous nous conduisez dans d'autres directions, on fait l'enquête en même temps que Gérard, et ça c'est fort pour l'auteur que vous êtes, ou pas ?
Oui, mais moi, ce que je veux, c'est entraîner les deux yeux qui sont au-dessus du livre avec moi. Je veux qu'ils me suivent.
Ah mais là, je vous ai suivi. Hein.
Je veux qu'ils soient dans les rues de Toulouse, je veux qu'ils soient dans l'avion et qu'ils soient dans la forêt québécoise. Et je veux qu'ils vivent avec moi. Oui, bon, on est plusieurs à écrire ce livre et je compte sur mes personnages à chaque fois pour me guider aussi.
Oui. Ah mais c'est vraiment bien fait, bien tissé. C'est pour moi un grand roman.
Bon, merci beaucoup.
Parce que, oui, comme on disait, on y trouve de tout. Il y a cette enquête qui piétine, ces doutes, il y a ces moments où il faut revenir en arrière, repartir en avant, partir dans d'autres pays, revenir sans rien avoir à se mettre sous la dent. C'est fabuleux.
Mais vous savez, un polar, c'est pas que... Alors, il y en a comme ça, il y a des gens qui aiment, mais pour moi, un polar, c'est pas que du sang. C'est pas...
Tout à fait.
C'est pas je rentre par la porte du studio, je zigouille tout le monde, ça, c'est pas compliqué.
Oui.
C'est facile, c'est pas compliqué. Non, ce qu'il faut, c'est de l'émotion, certes, mais il faut que dans un polar, on apprenne quelque chose. Ou on ait de la sensibilité, on apprenne quelque chose. Alors, ça peut être sur les méthodes policières, ça peut être sur une thématique bien précise, mais il faut qu'on en ressorte en n'ayant pas une impression de vide, de sang, de meurtre. Non, moi, je ne veux pas ça. Ce n'est pas dans ma culture. Je sais qu'il y a des auteurs qui sont qui trucident, qui détaillent chaque torture, chaque...
Oui.
Moi, je suis plus dans le roman policier,
oui.
Noir, certes, mais ce n'est pas dans ma mentalité. Et je veux, au contraire, que par-delà, évidemment qu'il y a un homicide ou deux, ou qu'importe, c'est normal, c'est un polar. Mais il faut en ressortir avec quelque chose de positif et avoir appris quelque chose. Je ne veux pas de stérile.
Oui. Et ce qui me fait dire que c'est un grand roman, c'est parce qu'on cherche avec Gérard, et à un moment même, on en a... envie de souffler les idées à Gérard, mais lui dire « mais tu te trompes,
oui,
il te faut aller par là ». Mais Gérard, lui, n'entend rien, bien évidemment. Et on a envie de trouver, justement, pour prouver que l'on a bien suivi toutes les ficelles. Mais on est loin aussi et on doute avec Gérard, finalement.
On doute avec Gérard. Et puis, il y a ce petit... tout ce travail qui, finalement, n'aboutit à rien. Et il y a Capucine qui, un jour, sans dévoiler le livre, va au restaurant... Et s'assoit à côté de deux personnes.
Oui. Et c'est ça, finalement, l'ampoule.
C'est ça. Et là, boum, ça s'allume, elle comprend. C'est un détail infime, l'infime détail.
Ah oui, c'est vraiment l'infini, oui.
Boum, on comprend, c'est l'étincelle.
Oui.
L'étincelle qui fait que ça s'embrase. Après, est-ce que le feu s'éteint ou s'éteint pas,
oui.
C'est autre chose. Mais bam, l'élément est là. Et l'élément est fortuit.
Oui, en effet. Où trouve-t-on votre livre ?
On va le trouver dans toutes les bonnes librairies. Il
oui.
va être à Carbone, il est dans les FNAC, il est dans les supermarchés. Il va être à la librairie aussi à Noé.
Oui.
Et puis, bien sûr, les lecteurs vont pouvoir me retrouver au grand salon, un immense salon festival
oui.
qui va se dérouler donc à Carbone les 14 et 15 mai. Prochain.
Oui.
Je serai donc en compagnie de très très grands auteurs nationaux, voire internationaux,
oui.
puisqu'il y aura plusieurs auteurs espagnols, il y aura un auteur américain,
mm-hmm.
il y aura un auteur belge, Et puis il y aura des grands du polar français, il y aura Tillier, il y aura Norek, il y aura Delarbol et beaucoup d'autres auteurs. Et donc j'aurai le plaisir d'être avec ces gens-là et de rencontrer tous les auditeurs de Radio Galaxie à ce moment-là, donc 14 et 15 mai prochain, donc à Carbone.
Oui, ben nous serons au rendez-vous. Quel retour vous avez eu de tous ceux qui vous ont lu, qui ont lu ce livre ?
Alors j'en ai eu quelques-uns qui sont positifs, pour l'essentiel. Il y en a un, il faut être honnête, qui m'a dit « Ouais, je trouve... » Mais c'est un lecteur de polar pur. Il m'a dit « Je trouve qu'il y a parfois un peu trop de poésie. » Il y en a un qui m'a dit qu'il y a parfois un peu trop de poésie.
Oui, mais moi, c'est une bulle d'air.
Oui,
c'est
mais
une
moi aussi.
Bulle de...
moi
voilà.
aussi. Mais c'est ce que je disais, chacun.
Oui.
Il y a des gens qui vont aimer quand c'est un peu plus salé, d'autres un peu quand c'est un peu plus fade. Chacun a ses goûts. Et puis moi, je me conforte quand même. Je n'ai pas envie d'écrire à la demande et d'écrire quelque chose que je n'ai pas envie de faire.
Mmh.
Moi qui aime bien un soupçon de poésie, ben jamais, malgré tout, j'en mets un petit peu. Et un livre aussi, ça doit avoir un côté aussi littéraire. Même un polar, ça doit être bien écrit. Ce n'est pas de la littérature blanche, certes, c'est de la noire, mais il faut qu'il y ait une qualité d'écriture, du moins... pour autant que je sache faire. Mais j'essaye de faire le maximum pour que l'écriture soit travaillée.
Oui, mais de toute façon, comme on disait tout à l'heure, vous êtes en train d'écrire, vous êtes en train de lire, mais à un moment, votre cerveau s'en va ailleurs. C'est
bien sûr.
Normal, oui. C'est scientifique ça. On ne peut pas l'effacer. Mmh. Donc moi, merci pour avoir mis justement ces petites bulles d'humour, de réflexion qui font du bien. Mmh. Parce qu'à un moment, il faut aussi que le lecteur reprenne le souffle.
Mais oui, tout à fait.
Donc nous n'allons rien dire de cette conclusion, de cette chute, parce que franchement, je ne m'y attendais vraiment pas. Je dis là franchement, bravo Patrick, il est fort. On va laisser découvrir le vrai tueur aux lecteurs,
aux éditeurs.
Et puis on se donne rendez-vous, donc vous avez dit, pour le mois de mai à Carbone, à la mi-mai.
À la mi-mai à Carbone.
Quelle belle phrase vous avez mise à la fin. Ah, elle est magnifique. Moi, j'adore cette fin, quoi.
Oui, oui.
Je bois mon whisky, j'écoute ces mots qui se posent sur moi, léger, tout léger, je souris. D'un polar ou pas, une phrase me vient. Mourir, ce n'est pas forcément perdre la partie, c'est l'abandonner. Finalement, je crois qu'enquêter, c'est pareil. C'est magnifique, ça.
Oui, bah merci beaucoup.
Ah, mais oui, moi, j'ai adoré. J'ai dit, mais il n'y a pas plus belle fin, quoi.
Oui, mais vous voyez, même, et c'est ce que je me rêvais, même dans un polar, il faut avoir... Il faut que les lecteurs perçoivent autre chose. C'est-à-dire, il faut du fond. Si c'est pour zigouiller tout le monde et mettre un peu de sang, un peu de sexe, ça m'intéresse pas.
Oui.
Des polars comme ça, il y en a des milliers.
C'est vrai.
Il y en a des milliers et je veux un peu plus. Il y a toujours ce côté de poésie, de littérature blanche. J'essaye de faire un amalgame de tout. Mmh. Voilà, tout simplement. Je peux pas... Vous savez, la poésie, j'ai fait plusieurs recueils, c'est quand même une maîtresse qui ne se laisse pas abandonner comme ça. Elle est toujours quelque part avec nous, elle est toujours au bout du stylo. Il faut pas qu'elle soit trop présente, évidemment, mais il la faut. Il faut du fond. Il faut qu'il y ait... Oui, il faut qu'il y ait de la densité, quoi. C'est ça,
oui.
C'est le terme. Il faut qu'il y ait de la densité par-delà l'intrigue.
Mmh. En tout cas, merci Patrick de m'avoir... tenu en haleine
tout le long de cette lecture.
Merci de ce savoir-faire qu'est l'écriture d'avoir fait enquêter Gérard sur ce livre-là, en tout cas. Même si c'est une fiction, on peut comprendre que la journée d'un policier ne doit pas être de tout repos.
Tout à fait. Et puis dans une fiction, il y a toujours, malgré tout, une part de vécu, une part de vrai et de réalité, puisque là, au niveau procédural, au niveau des faits, tout est en adéquation avec la réalité.
Tout à fait. En tout cas, merci Patrick de m'avoir confié cette lecture. C'était vraiment un grand plaisir. Et j'espère que les auditeurs, justement, la découvriront avec autant de plaisir que moi. Et donc, je vous laisse le mot de la fin.
Bah écoutez, merci beaucoup. Merci à Radio Galaxie, à tous les auditeurs auxquels donc, je donne rendez-vous à la mi-mai. Merci à vous Gisèle.
Merci.
Et puis écoutez, alors on se donne rendez-vous si vous le voulez bien au prochain livre.
Entendu. Et on écoute quoi pour finir cet entretien ?
Et alors on écoute, puisqu'il y a mon héros part au Québec, on va écouter une chanson de Joe Dassin, Dans les yeux d'Émilie.
Au revoir Patrick.
Au revoir Gisèle.
Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air
d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour et la mélancolie. Au soleil d'Émilie devint mes joies de vivre. Dans son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière. Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour et la mélancolie. Au soleil d'Émilie devant les joies de vivre en ce temps-là. J'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi,
c'était Page après page, une rencontre intimiste avec un auteur.